Et bonjour à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On se retrouve aujourd'hui avec Z. Salut Z, comment tu vas?
Tranquille, tranquille, et toi, tonton?
Bah très très bien. On se retrouve justement après une semaine d'absence en ce qui me concerne pour des problèmes personnels pour évoquer justement la nouvelle composition. Quel sera le premier test de Christophe Galtier avec le PSG? Quelle sera sa première compo pour son premier match officiel qui se trouve être le Trophée des Champions dimanche contre Nantes? Comment tu vas, Z?
Bah, ça va tranquille, un peu préoccupé par ce PSG, la manière avec laquelle les matchs ont évolué. Après, on va voir comment ça va évoluer dimanche et justement, on va en parler aujourd'hui, ça va être bien cool.
Bah, pour évoquer justement ce changement un peu, bah, quelle peut être la première équipe de Christophe Galtier, bah, moi ce que je me dis tout d'abord, c'est qu'on a changé de coach, on est passé de Mauricio Pochettino à Christophe Galtier. Mauricio Pochettino nous a fait beaucoup jouer dans un 4-3-3 la saison dernière, et là, bah, quand on voit les matchs de préparation et les nouvelles tendances, on a l'impression de plus se diriger vers un 3-5-2, je sais pas ce que t'en penses.
Ah, c'est pas, on a l'impression de se diriger plus. On a eu une mi-temps au premier match qui s'est joué en 4-3-3, c'était la deuxième mi-temps, et sinon, tout s'est intégralement joué en 3-5-2, enfin plus exactement en 3-4-1-2. Clairement, on va dans cette direction. Maintenant, on a vu au niveau de la charnière, il y a des énormes problèmes. On a commencé avec une charnière en V, mais qui était plus ou moins appliquée, et sur le dernier match, c'était pas du tout appliqué. On s'est retrouvé avec une charnière en ligne. Et tout à coup, on commence à se demander si, en fait, compte tenu des joueurs que nous avons, Pochettino n'avait pas raison de ne pas céder à la défense à 3. Maintenant, on est parti pour ça. Il y a une recrue qui vient d'arriver, on va en parler tout à l'heure, qui est un très bon complément par rapport à ce système. Et clairement, enfin, c'est même pas, on va, enfin, c'est, pour l'instant, on joue en 3-4-1-2. Maintenant, la question va se poser en fonction des recrues qu'on va en avoir. Est-ce que ça va être viable? Et est-ce qu'on ne sera pas obligé de backtrack? Mais bon, pour l'instant, on ne va pas anticiper le futur, on ne sait pas encore quoi.
Je vois qu'on est déjà nombreux dans le chat. Il y a Eve qui nous explique qu'elle nous regardera plus tard parce qu'elle est actuellement au boulot. Salut également à UltraFanF qui est là avec nous. Anthony également. Gérard Messier. Guirou. On a vraiment du monde. Salut Guirou de Savoie que je connais un peu par Twitter. Anthony Folk. Il y a Gérard qui demande si t'es un petit peu anxieux. Non, je pense que justement, c'est de l'excitation. Tu sais, on a 2 jours du premier match officiel du PSG. Ça fait longtemps qu'on attend ça, Gérard. Bah, salut également à Mister Ken qui a l'habitude de nous rejoindre également à tous les autres qui sont avec nous. Salut Barry, comment tu vas?
Ça va être... C'est quoi cette coupe
Ah, on est
là?
passé chez le monsieur. Bah, justement, Barry, tu viens de nous rejoindre. On évoquait avant que tu arrives bah, quel serait le dispositif avec lequel on pourrait jouer pour le premier match officiel bah, de Christophe Galtier au PSG. Et justement, on évoquait avant que tu arrives bah, le changement de système avec Mauricio Pochettino qui était là l'an dernier et qui jouait beaucoup dans un 4-3-3. Et l'arrivée de Christophe Galtier et le passage un peu soudain, on va dire, au 3-5-2, 3-4-1-2. Et toi, ben, qu'est-ce que tu penses de tout ça pour commencer?
Qu'est-ce que je pense du système que je voudrais qu'on mette en place ou le système qu'on va mettre en
Non,
place?
ce qui est mis en place déjà, est-ce que tu constates des changements depuis l'arrivée de Galtier, lesquels?
Bah, pour moi, le système, il vient d'être mis en place, donc ça va être difficile de déceler certaines choses. Moi, le Sarabia, j'ai bien aimé, donc j'aimerais voir Sarabia dans ce système-là. Assez mitigé sur le Kamessi, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai des réserves sur ce système-là, mais voilà, je pense que ça va bien passer. Après, on joue contre Nantes, donc c'est pas vraiment le système que, enfin, c'est pas vraiment le jeu en lui-même que je vais regarder. C'est plus la manière dont les joueurs vont se placer, la manière dont les joueurs vont vouloir jouer entre eux. Donc moi, ça va plus être sur ça que je vais me baser.
Si je peux rebondir sur
Vas-y,
Nantes,
t'as des girafes à toi.
ouais. C'est bah, sur Nantes, il y a un truc qu'on va commencer à voir, c'est qu'Antoine Comboiré, ça joue pas forcément très bien, mais par contre, ça presse vraiment tout terrain. Et justement, la problématique que pose l'agencement de notre charnière va être mise à l'épreuve dès ce match, je pense.
Après,
C'est pour ça
Galtier,
que
c'est
là,
un
tu
coach
vois,
qui
bah.
réussit quand même contre nous en règle générale. Hein. Je veux dire, Galtier, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi,
Comboiré.
Comboiré. Comboiré, ben, je veux dire, je vous renvoie justement le match un peu de la honte après la Ligue des Champions où il nous met une petite honte quand même, tu vois. Mais il y a des joueurs quand même que je pense comme Randal Kolo Muani qui vient de quitter le club et qui risque de faire quand même du mal à l'absence, notamment. Je veux dire, Nantes, ça va pas être facile de jouer sans ce joueur qui a apporté beaucoup la saison dernière. Donc moi, je me dis qu'aussi, il y a eu des changements qui ont été évidents, le changement avec le passage à 3 qui met certains joueurs qui n'étaient pas des plus à l'aise l'an dernier dans de bien meilleures dispositions. Je pense notamment à Léo Messi et Neymar qui sont tous les deux des joueurs qui pour moi ne peuvent plus jouer dans l'aile. Et le fait de passer sur ce système, ça pourra peut-être permettre de les remettre dans l'axe et du coup d'être plus efficaces parce que Nuno et Hakimi vont plus pouvoir occuper les ailes que l'an dernier avec ce système où ils seront plus mis en avant. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors juste pour répondre au commentaire de Alexandre, non, on n'est pas du tout pessimiste, hein, mais on est réaliste, c'est différent. Le système vient d'être mis en place, le système de la défense à 3, ça prend énormément de temps pour qu'une équipe comprenne les rudiments d'une défense à 3, en sachant que tu as, pour te donner un exemple tout bête, tu as le cas Ramos. Ramos, je ne sais pas si vous avez remarqué avec le Paris Saint-Germain, il a constamment ce réflexe-là, et tu regarderas son jeu sans ballon. Lorsque un joueur tente de prendre la profondeur, il fait toujours deux pas en avant et il lève la main. Parce qu'il joue hors-jeu. Et c'est ce qu'il a toujours appris à Madrid. C'est un basique, tu regardes les matchs de Madrid, il le faisait tout le temps. Au Paris Saint-Germain, là, actuellement, on passe sur une défense à 3. Les deux autres autour, eux, ne le font pas. Donc, ça fait que soit Marquinhos est un peu trop bas, soit Marquinhos est un peu trop haut. Donc, comme je le dis, le système de la défense à 3, là, je te parle du cas Ramos, on parle d'un joueur qui, ça fait 15 ans qu'il expérimente la même manière de jouer dans un système à 2. Donc, forcément, le système à 3, ça va demander du travail. Après, c'est un système que les joueurs ont connu l'année dernière. Certains joueurs, tu as des nouveaux joueurs qui viennent s'implanter. Donc, forcément, ça va prendre du temps. Donc, c'est pas du pessimisme, c'est juste de la réalité. Et j'ai vu un autre commentaire que je trouvais intéressant, ce qu'on va, voilà, celui-ci. Le système n'est pas le plus important, mais plutôt l'animation des joueurs dans le système. C'est bien, moi, c'est bien ce que, tu vois, c'est bien ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en lui-même, je pense qu'on aura des brèches. On va le voir au fil du match, on aura des brèches, etc. Après, à l'équipe d'essayer de colmater au mieux ces brèches, parce que forcément, le système est nouveau. Et comme je vous ai dit, la défense à 3, ça prend énormément de temps pour la mettre en place. Donc moi, ce que je vais voir plutôt, ça va plus être l'animation des joueurs, la capacité à se dépenser, la capacité à jouer en une touche, à sentir le jeu, à passer sur les ailes. Ça va plus être sur ça que je vais miser plutôt que sur le système en lui-même.
Je vais réagir aux deux commentaires. Bon, d'abord sur le pessimisme. Enfin, moi, il y a un truc qui est très notable, c'est le renoncement à certains systèmes et à certaines animations défensives au travers des matchs amicaux. On a vraiment vu une régression, et à partir de là, ça n'invite pas forcément à du pessimisme, mais au fait de commencer à se poser des bonnes questions. Et pour étayer dans le sens de Barry, mais pour aller même un peu plus loin, la défense à 3, donc bien sûr il y a la problématique du hors-jeu, parce que quand on est dans un système en V, c'est-à-dire avec une pointe basse et deux pointes hautes, bah, tout à coup s'aligner c'est beaucoup plus complexe que quand il n'y a que deux joueurs qui sont sur la même ligne pour jouer les hors-jeux. Mais au-delà des hors-jeux, ça demande des capacités, des compétences spécifiques, comme des mécanismes de compensation, des mécanismes de projection pour un, pour l'autre, avec des mécanismes de coulissement qui se mettent automatiquement en place. Et ça demande, un, énormément de temps, et deux, d'avoir des qualités spécifiques. Et il y a une vraie interrogation qui se porte sur est-ce que nos joueurs ont vraiment ces capacités-là. Tu parlais de Ramos, mais il y en a d'autres qui peuvent rentrer dans cette équation-là. C'est pas forcément être pessimiste, mais comme dit Barry, c'est être réaliste, et il y a des interrogations qui se posent, et il va falloir répondre à ces interrogations. Maintenant, sur animation système, il faut prendre conscience que ben justement, quand on passe dans un système à trois derrière, ça implique des changements structurels dans ta manière de jouer, dans ta manière d'organiser. Donc, indépendamment de l'animation, tu vas devoir ben justement animer ce système au-delà des compensations que vont faire les joueurs les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a quand même des choses à regarder sur le système en lui-même et sur la manière avec laquelle on l'implémente.
Et même si je peux rebondir sur ce que tu dis, Zed, le système avec la défense à 3, pour ceux qui ont fait du foot et qu'on joue en défense, hein, je vous renvoie, c'est l'un des systèmes qui demande le plus de travail, c'est le moins facile à travailler, je veux dire, excuse-moi, mais quand tu fais un 4-2-3, un 4-3-3, 4-4 de losange, tout ce que tu veux, t'as une défense à 4. Et ça change beaucoup de choses d'être à 4 derrière que d'être à 3. Parce que bah, 3 en phase offensive, 5 en phase défensive, mais c'est pas les mêmes repères, c'est pas les mêmes placements pour les défenseurs. Donc c'est vraiment un système qui se travaille. Rome ne s'est pas fait en un jour, la défense à 3 non plus, je vous rassure. Par contre, ce qu'on a vu jusque-là, c'était des balbutiements. Il n'y avait pas tout l'effectif au complet, beaucoup de changements. Il y a eu des prévoyances, notamment sur le fait que Mbappé va être suspendu et ne pourra pas jouer ce match contre Nantes. Donc tu l'as fait reposer et tu as fait jouer d'autres joueurs, comme Kalimuendo par exemple, mais tu as Ekitike qui vient d'arriver. T'as Moukile qui vient d'arriver, et ces joueurs peut-être qu'ils peuvent apporter d'autres qualités qui seront utiles, parce que notamment je l'ai vu dans les commentaires à juste titre, Moukile qui débarque à Paris dans un 3-5-2, c'est pas insensé. Moukile jouait dans un 3-5-2 à Leipzig, il a été capable de jouer dans la défense dans l'axe aussi bien que latéral droit ou bien piston, comme j'expliquais dans un live précédent de la semaine dernière. Bah, t'as des recrues, c'est pas insensé non plus, je veux dire. Donc je vous propose qu'on passe justement sur cette deuxième partie pour parler du système que Galtier va employer, les recrues. Mais je te laisse, Barry, finir sur ce que tu voulais dire avant.
En fait, pour comprendre notre on va dire, pour moi, ce n'est pas du pessimisme. Parce qu'en soi, moi, je suis plus mesuré que Dria. Je pense que les joueurs peuvent mettre en place le 3-5-2. C'est juste que ça va prendre du temps. Je pense qu'on a les ressources. Pour comprendre un peu mieux on va dire notre pessimisme entre guillemets sur le 3-5-2, il faut comprendre pourquoi on met ce 3-5-2 en place. On met ce 3-5-2 pour deux, voire trois raisons. La première raison, c'est qu'on a des pistons qui sont incroyablement forts. Et donc, on aimerait utiliser ces pistons, étant donné que nos ailiers qu'on a actuellement au Paris Saint-Germain ne sont plus capables de faire les efforts que demande un ailier. Et la deuxième raison, c'est que derrière, à la perte du ballon, tu as constamment un trou dans la défense. Et ça rappelle ce que je disais la dernière fois sur la vidéo Hakimi, que les gens n'ont pas compris, c'est que derrière, la charnière centrale se retrouve constamment esselée. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à prendre des vagues et des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. Et j'ai même donné un argument qui dit que tous les buts qu'on prend, ils viennent constamment des côtés, notamment le côté d'Hakimi, le côté droit. Des fois, ça arrive du côté gauche, mais en général, du côté droit. Donc, à quoi sert ce système-là? Ce système-là, il te permet déjà de 1 d'avoir une stabilité défensive en plus, vu que tu rajoutes un défenseur, et surtout d'élargir ton bloc de ta charnière. C'est-à-dire que ta charnière centrale est un peu plus excentrée. C'est-à-dire qu'en soi, Ramos et Kimpembe ont des tâches aussi de latéral, mais défensif. Tu vois, ils ont des tâches comme ça. Donc, le système du 3-5-2 aussi permet cette chose-là. C'est pour ça que moi, je vous dis que j'ai un peu du pessimisme. Alors, pourquoi je suis réaliste par rapport à ça? Il y en a qui disent que Ramos ne peut pas le faire parce qu'il a toujours joué dans une défense à deux. Pour moi, c'est possible parce que Ramos a déjà joué latéral. Il a déjà joué latéral, donc il connaît les spécificités des deux postes. Tu vois? Donc, il sait cette gestion de la profondeur. C'est pour ça que je suis dur avec lui quand je dis que dans les précédents matchs de préparation, moi, ça m'a choqué qu'il se laisse prendre dans le dos autant de fois. Parce qu'il a cette gestion-là, il sait la faire. C'est pour ça que je vous dis que ça va prendre du temps. Kimpembe ne sait pas le faire. Marquinhos, lui, a déjà joué 6, mais là, il se libéraux. Libéraux, c'est la passerelle entre la charnière centrale et le milieu. Donc, forcément, ça va demander un petit temps d'adaptation.
Est-ce que tu voulais compléter Z avant qu'on
Ouais,
poursuive le live sur un autre sujet?
juste d'autres inquiétudes. Enfin, tu dis que ça passait que par les ailes. Je suis pas tout à fait d'accord. L'année dernière, ça passait beaucoup par l'axe. Et un des défauts récurrents du Paris Saint-Germain, c'est de plus avoir de défenseurs en zone depuis le départ de Mota et cette incapacité justement à couper les entrées par l'axe, et ensuite de ça, c'est écarté sur les ailes parce qu'effectivement, les diagonales étaient faciles à trouver. Ensuite de ça, il y a un autre manque immense maintenant pour envisager un autre système, c'est qu'on n'a plus aucun ailier dans l'effectif, en fait. Neymar et Messi, c'est plus des ailiers, mais alors plus du tout. Sarabia, il avait les capacités pour jouer ailier, mais c'est plus vraiment le cas. Touré, à la limite, Mbappé, mais Mbappé, il n'a pas du tout envie de jouer ailier, il veut vraiment jouer central. T'as pas d'ailier dans ton système, donc 4-3-3 et ce genre de truc, tu oublies parce que ce sera inatteignable. À la limite, tu pourrais réfléchir à un 4-3-2-1 en sapin ou un 4-4-2 en losange, mais à ce moment-là, tu as des gros manques au milieu. Enfin, c'est complexe à mettre en place et l'effectif est vraiment pas taillé pour l'instant pour aller répondre au système à 4 avec ce qu'on a en état.
Est-ce que je peux juste répondre Ah non, tu n'as pas
Oui.
fini?
Vas-y, remets le
commentaire. Non, 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 je sais plus ce que je voulais dire.
Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que j'ai vu que tu avais fini, tu as mis un petit temps. Juste pour répondre à ça, Ramos, faut qu'il joue central, passe en passe droit, il n'a plus de coffre pour être sur le côté. Mais ça revient à ce que je te dis. Si on met une défense à 3, c'est pas pour rien. C'est parce que nos latéraux ne redescendent pas. Donc Ramos, que tu mettes un 4-4-2, il va se retrouver toujours dans la même, il va se retrouver dans la même situation qu'il aurait s'il était dans une défense à 3. Et malheureusement, il te manquera un joueur. Alors que là, tu rajoutes un joueur, justement. Donc, c'est pour ça qu'on veut on veut à tout prix mettre une défense à 3 au Paris Saint-Germain. Si tu n'avais pas les ailiers aujourd'hui qui n'ont plus les jambes, moi, je dirais que le système de la défense à 3, il serait peut-être pas au mieux pour optimiser les qualités de Kylian Mbappé, les qualités de certains joueurs. Sauf que là, tu as besoin d'une compensation de tes latéraux, qui vont devenir des pistons, pour prendre le couloir. Donc, forcément, tu es obligé de mettre une défense à 3.
C'est un peu plus complexe, ça permet.
Je vois une autre question de Jude qui est intéressante. Alors, pour répondre à cette question, on va y répondre plus tard, justement. Je te donnerai mon avis, mais dans une autre partie du live. Je vous propose qu'on poursuive dans la deuxième partie pour répondre à cette question qui était comment on va jouer Christophe Galtier pour son premier match officiel contre Nantes. Et ben, je vous propose qu'on parle de l'apport des recrues, de Mukiele, de Ekitike, de Vitinha. Est-ce que vous les voyez jouer titulaire, entrer en jeu? Pas du tout.
Non, je peux y aller. L'étiquette a sorti une interview aujourd'hui dans l'équipe que j'ai trouvée extrêmement rassurante avec un discours extrêmement sain. Il attend pas d'être titulaire, il attend d'avoir du temps de jeu et d'aller le chercher, d'aller le gagner, d'aller le mériter. Et il m'a beaucoup rassuré au niveau de son mindset. J'avais quelques doutes, moi, accompagnant joueur, dans le sens où j'étais conscient qu'il était très bon et j'avais vu une hype l'entourant. Mais j'étais en train de me demander, bah, le gap, est-ce que le gap n'est pas un peu trop grand? Mais il m'a l'air très sain au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit. Et j'ai vraiment envie de lui faire confiance. Maintenant, je ne pense pas qu'il serait utilisé comme titulaire. Il peut être utilisé peut-être avec Kylian Mbappé, mais j'ai l'impression que le plan de jeu, ça va vraiment être pour l'après Mbappé et le remplaçant de Mbappé et fonctionner de cette manière-là. Ensuite de ça, on a les Ziyech, on a qui d'autre déjà comme un recrue? On a Mukiele.
Mukiele, Vitinha.
Mukiele, je pense que c'est une très bonne chose. Après, Mukiele, est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain quand on sait que le mec ne s'imposait pas à Leipzig? La question se pose. Clairement, pour moi, c'est un bon remplaçant, mais c'est pas un titulaire au poste. Alors après, comme on a des incapacités justement à travailler l'animation défensive et que lui, il a des réflexes là-dedans, il sera peut-être utile dans un premier temps, mais ça peut pas être une réponse, je pense, à long terme pour le poste de titulaire. Je pense que c'est plus un remplaçant qui offre à la fois l'avantage de pouvoir remplacer le central droit et le piston droit parce qu'il a les deux qualités et donc à ce niveau-là, il est très très intéressant. Et Vitinha, j'avais une image qui était complètement faussée. Je pensais qu'il les défendait un petit peu comme Marco Verratti. Il s'avère qu'il défend quand même moins que Marco Verratti. Mais par contre, il est extrêmement intéressant. C'est un joueur qui accélère énormément le jeu. Il porte énormément de bien au milieu. Et surtout, il a une qualité qu'aucun de nos autres milieux, voire de nos offensifs, ont. C'est la capacité à écarter sur les ailes. Il n'y en a aucun autre qui le fait. Et il le fait et c'est essentiel parce que le nombre de fois qu'on voit Hakimi qui est en carafe sur le côté, en mode bah, il sera jamais servi. Avec Vitinha, il peut avoir l'espoir d'être servi et Vitinha devient déjà essentiel en fait, rien qu'à cause de ça.
Bah, justement, Barry, toi, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi, les recrues que sont Mukiele, Vitinha et Kitike ont une chance de jouer dès dimanche contre Nantes?
Alors, pour vous dire la vérité, j'ai oublié la question, c'est pour ça que tantôt l'a répété. Mukiele, moi je suis d'accord avec Drias. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, j'ai quand même des réserves sur le cas Mukiele. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est une bonne alternative. Sa polyvalence est très intéressante au Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il a énormément, enfin pas énormément, mais il a beaucoup de potentiel. Énormément, c'est beaucoup quand même. Il a beaucoup de potentiel et qui peut faire énormément de bien dans cette équipe. Par contre, oui, je pense qu'il est là pour être titulaire. Juste là où je suis plus mesuré, c'est que je pense que, comme je l'ai dit au précédent live, l'arrivée de Mukiele va relancer la concurrence à un poste où Hakimi n'avait pas de concurrent. Voilà, aujourd'hui, il sera piston, donc il va jouer un peu plus haut. Il aura peut-être moins de tâches défensives à faire, mais il va quand même devoir en faire. Et donc, je pense que là, il va devoir corriger certaines choses sur son jeu défensif. Après, moi, sur le cas Mukiele, je pense qu'on est tous d'accord. Mukiele, là, il a un défaut, et pour moi, c'est ses errements. C'est-à-dire que c'est un défaut qu'on a reproché énormément à Kylian Mbappé, à Presnel Kimpembe. Waouh. Du coup, c'est un des reproches qu'on lui a fait. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité, des fois, à déconnecter son cerveau et à faire une main, à faire un tacle, il ne faut pas faire, un carton rouge, un carton jaune. Et donc voilà, c'est une chose qu'on avait reprochée. Et je trouve que Mukiele a certaines caractéristiques sur ça. Après, Mukiele, il est beaucoup plus jeune. Il a 24 ans, si je ne dis pas de bêtises, 23, 24 ans.
Voilà. 24 ans.
Donc, voilà, 24 ans. Donc, autant on dit que le prime des défenseurs centrales, on est aux alentours des 27 ans. Il commence à 27 ans, autant les latérales, c'est à peu près la même chose, même si leur carrière finit un peu plus tôt. Donc je pense qu'il a encore des choses à apprendre, il a encore un apprentissage. Bref, sur le cas Vitinha, moi, comme je vous ai toujours dit, que ce soit dans le groupe Paris Central, ici, ou même avec mes potes, c'est un joueur que j'aime énormément, que j'ai énormément aimé voir à Porto. Je trouve qu'il a énormément de qualité. Il y en a beaucoup qui ont des réserves par rapport à lui, par rapport à son passage mitigé en PL. Je l'entends. Parce que c'est vrai que son passage avant PL, c'était à Wolverhampton, non, si j'ai pas de bêtises.
Oui.
Wolverhampton.
Oui.
Voilà.
Donc, le club portugais.
Son passage à Wolverhampton. Voilà. c'est ça. Donc, son passage à Wolverhampton était assez mitigé. Par contre, sa saison l'année dernière à Porto, ce qu'il a fait et ce qu'il a montré encore pour les matchs de pré-saison, moi, elle me donne quand même pas mal d'optimisme avec lui. Et l'une des choses que j'avais remarqué et qu'il a toujours eu même à Wolverhampton, c'est sa capacité à la réception du ballon, à se placer toujours face au jeu à une vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il joue toujours en avant et il met tous les touches qu'il va faire, c'est pour apporter un plus offensivement. C'est pas pour faire des touches. Et ça, c'est ce genre de joueur-là que j'aime bien, qui bonifie un jeu.
Basto, lâche ce compte. T'as pas vu le commentaire?
Ah, j'ai vu,
Basto, on te
donc voilà. Sur...
retrouvera.
Je trouve que c'est un peu dur. Là, c'est un joueur que c'est pas Hakimi au niveau de la facilité technique, mais c'est un joueur qui est pas dégueulasse
Voilà.
techniquement. Et surtout, c'est un joueur qui est appréciable par son intelligence tactique. Et alors
C'est ça.
après, comme le disait Barry, il y a des moments où il a des petites sautes de concentration, un petit peu comme Kimpembe d'ailleurs. Comme Kimpembe, il y a 2-3 ans, il a ça. Mais il a une intelligence tactique, une vraie capacité à s'adapter. Et je pense pas que quand on parle de Serge Aurier, on puisse parler d'intelligence tactique.
Bah, après, justement,
Ouais,
Barry, pour
on parlait
conclure.
de bêtises chaussettiennes, mais d'intelligence tactique avec Aurier, c'est pas compatible.
Juste pour finir en rapide,
Sur
donc
Ekitike,
Bitina,
ouais.
très, très bonne recrue. Ekitike, bah, moi je pense déjà faut qu'il prenne en masse musculaire.
Vas-y,
Parce
tweets.
que sinon il va se faire bouffer. Après, il est jeune, donc ça c'est de la vanne. Hein. En vrai, il est jeune, il va prendre en croissance, il va grandir, il va pousser en masse musculaire, donc c'est bon.
Rappelle-toi Mbappé à son arrivée.
Et il résistait
Ekitike,
à Reims.
voilà.
Il s'en est mangé des
Voilà.
duels. Hein. Il était tout seul
Voilà.
sur l'attaque et il résistait bien.
Ekitike, bonne recrue. Après, ce que j'aimerais qu'il développe au Paris Saint-Germain, ça serait son jeu en pivot. Parce que je sais que Balotelli, il est très très bon. Et qu'au Paris Saint-Germain, dans le 3-5-2, on aura besoin d'un pivot. Alors, je ne lui demande pas de l'aide dans l'immédiat. Je ne lui demande pas d'être uniquement pivot au Paris Saint-Germain. Mais j'aimerais qu'il développe ces capacités-là pour avoir un point de fixation dans la surface quand il est sur le terrain. Pour pouvoir permettre à Mbappé de briller. Pour pouvoir permettre à Neymar, même si il est un peu lourd, de briller. Et à Messi aussi d'avoir la possibilité de faire des remises en une touche. Chose que Messi n'avait pas cette saison-là. Et on l'a vu, il partait de l'aile. Il essayait de faire ses passements de jambes, etc. Mais il n'avait pas ce point de fixation qui remet le ballon derrière. Et donc ça s'est vu, il a peiné. Donc voilà, après, donc là, c'est les trois recrues qu'on a eues. Après, il y a les rumeurs. Mais bon, ça, je ne crois pas que tu vas poser la question.
Pas
Par
encore.
contre, on a eu des retours. On a eu un retour qui est très intéressant. Et pour moi, c'est clairement une recrue. Hein. C'est Sarabia. Pour moi, on peut considérer que Sarabia comme une recrue parce que ce qu'il a fait du côté du Portugal, il a déjà son premier passage au Paris Saint-Germain, j'avais beaucoup aimé le joueur. Mais ce qu'il a fait du côté du Portugal la saison dernière, pour moi, il a encore plus développé son jeu. C'est-à-dire qu'il a tellement développé son jeu qu'il est arrivé à un moment où l'entraîneur l'a mis faux numéro 9. Et donc, quand on te met faux numéro 9, en général, c'est que tu as des compétences footballistiques et de placement et tactique supérieures à la moyenne. Et il est vraiment devenu très très bon. Et je trouve même qu'il avait un problème, Sarabia, c'est que je le trouvais assez lent. Et je trouve que sur les matchs de préparation, en sachant que face à lui, il avait des joueurs japonais qui, eux, sont très rapides, ça m'a choqué, mais ils sont très rapides, il avait quand même une certaine pointe de vitesse et ça m'a choqué. Donc je ne sais pas s'il a travaillé dessus ou si c'est juste parce qu'il est en forme. En tout
Je
cas, c'est
pense
très bon.
que c'est
Mais
juste
je te dirais qu'eux, ils sont pas à court de rythme, tu sais, ils sont en pleine saison. Donc eux, c'est normal, ils étaient dans le rythme, alors que nos joueurs, non, pas spécialement. C'est plutôt ça qui était choquant, je te dirais, Barry. C'est vrai que
Mais.
Sarabia et même Kalimuendo, tu peux dire que c'est presque des recrues, en fait, parce que les
J'ai
deux
oublié lui.
t'apportent des profils nouveaux dans l'axe, des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Donc ouais, il y a des choses intéressantes que tu pourrais travailler là-dessus. Moi, pour conclure sur ce sujet, je dirais que vas-y,
Avant
tu veux y aller, Z,
ben non,
conclue, et
non,
après, moi, je te
non,
conclurai sur le
juste
sujet.
ma conclusion parce que j'aurais un truc à rajouter. Mais vas-y, je voulais pas te couper parole, mais c'est juste pas pour conclure parce que j'aurais un truc à rajouter.
Bah, en soi, pour parler de l'apport des recrues et est-ce qu'ils jouent ou non, moi je te dirais que celui qui pour moi a le plus de chances de jouer va être Vitinha, parce qu'il y a une possibilité que dans ce système tu as envie de tenter la paire Verratti-Vitinha. C'est ton premier match officiel, tu joues contre Nantes, c'est pas non plus comme si tu affrontais le Bayern, donc je pense que tu peux te permettre certains essais, avec tout le respect que j'ai pour Nantes bien entendu, tu vois, mais il faut quand même une équipe compétitive, donc je pense que Vitinha va jouer. Je pense que Ekitike ne sera pas celui qui va jouer, je pense que ce sera plus Kalimuendo. Parce que je pense que tu verras Neymar, Messi qui vont lancer un maximum Kalimuendo dans la profondeur, chose que Ekitike fait un peu moins, il prend moins la profondeur, comme tu l'as dit, il dézone vachement, il se propose pour jouer. Et je pense que comme tu auras déjà Messi et Neymar, tu vas plus mettre un Kalimuendo pour prendre la profondeur. Et Mukiele, ça dépend dans le sens où je pense que Hakimi va jouer. Après, peut-être que Mukiele aurait peut-être une carte à jouer dans la défense à 3, parce que comme vous l'aviez dit, la défense à 3 n'a pas non plus montré une assurance tout risque jusque-là, même si ce n'est que des débuts. Hein, on ne va pas être dur après 15 jours de préparation contre des équipes qui étaient en plein rythme, en pleine saison, contrairement à nous qui venions de reprendre. Mais pourquoi pas tenter un truc avec Mukiele dans l'axe droit de la défense, Marquinhos dans l'axe, Kimpembe à gauche, et Hakimi piston droit, et Ramos qui rentrerait en cours de match, tu vois. C'est juste un avis. Hein. Après, ça se trouve, Galtier ne fera jouer aucune de ses recrues non plus. Et on verra un Verratti gay au milieu de terrain. Et certains d'ici vont tirer la gueule.
Je voulais juste rebondir du coup sur Sarabia et Cali.
Vas-y.
Sarabia, c'est, il a tout du joueur moyen, il est tellement intelligent qu'il arrive à compenser. Et il sait bosser sur ses points faibles, et notamment sur sa finition. Il a une finition exceptionnelle, notamment en sortie de banc. On l'a vu, et clairement, ça va être une arme. Et je m'en veux de l'avoir oublié, parce que c'est vrai que, comme le dit Barry, c'est quasi
Intéressant.
quoi. Mais pour Cali, par contre, là, je partage pas, et je partage pas parce que je le trouve très bon. Équitiqué, enfin l'étiquette, comme je l'appelle, parce que c'est plus simple. On l'a pris d'une certaine manière pour être le remplaçant de Mbappé à terme. Clairement, le Kalimundo, il a le profil Mbappé aussi au niveau des appels, au niveau de la structure du jeu. C'est un joueur qui a toujours été réglo avec nous. Il a accepté d'être prêté, il a accepté tout. J'ai pas envie de le mettre troisième à son poste, j'ai pas envie de lui réserver ça. Donc c'est un joueur, j'ai envie qu'on le laisse partir, peut-être avec une option sur le rachat, une option de revente, je sais rien. Mais Kalimundo, le mettre sur le banc pour le mettre sur le banc, je trouverais ça vraiment pas clean de notre part. Le mec, il a le niveau pour être titulaire dans un 5-6e de championnat maintenant. Il a encore fait des progrès par rapport à ses années à Lens. Et s'il progresse, il aura le niveau pour être titulaire dans quasi n'importe quel club.
On est tous d'accord sur le Kalimundo. Juste,
Mais
il y
faut
avait
le laisser
juste une.
partir, du coup.
Il y a une
Faut
faute
laisser
d'orthographe là.
parler, du coup. Hein.
Ah, c'est une chose avec un S. Non, moi je te dis, moi, Kalimundo, je te dis que moi j'aimerais bien le garder. Après, il y a une réalité économique au Paris Saint-Germain. Faut aussi la voir. On peut pas uniquement omettre toutes les choses que le Paris Saint-Germain a. Il a une certaine cote sur le marché. On n'arrive pas à se débarrasser des indésirables. Donc moi personnellement, si on se débarrasse de Kalimundo, ça sera un crève-cœur, mais je ne le tiendrai pas rigueur au club. Comme quand ils ont fait partir Nkunku, quand ils ont fait partir Diaby. À ce moment-là, en plus à ce moment-là, quand ils partent les Nkunku et Diaby, excusez-moi de faire un petit aparté, hein, mais je
Bien
vous
sûr,
rappelle
tu finis.
on avait pris les deux monstres, on était très contents de les avoir pris. Et le fait qu'ils partent, c'est justement pour compenser l'arrivée des deux monstres que tu as échelonné sur 5 ans par rapport à ton bilan comptable. J'aimerais juste répondre à ce commentaire que j'avais mis sur le côté.
C'est intéressant
Danilo, je le
d'ailleurs.
trouve meilleur que Ramos à droite en défense à trois. Sur le papier, oui, ça serait intéressant. Dans les faits, non, ça ne serait pas intéressant. Après, c'est mon
Mais en
avis,
tout
hein.
cas, en remplaçant de la défense à 3, Danilo, je le garde tout à fait dans ce rôle,
C'est
plus
ça.
qu'au milieu, en tout cas dans le 3-5-2, tu vois.
Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que Danilo, si tu le mets dans une défense, pour moi, il doit être le libéro. Il ne doit pas être le défenseur axe droit ni le défenseur
On est
axe gauche.
d'accord.
Pour la simple et bonne raison que, comme je le dis souvent, en phase offensive, ton libéro, c'est-à-dire le défenseur du milieu, il va devoir monter pour compenser certaines choses. Donc devenir ton numéro 6. Et donc à ce moment-là, Danilo pourrait te le faire. Sauf que Danilo, si tu le comprends,
Complètement.
vu la qualité de Danilo, que ce soit en tant que défenseur ou en tant que 6, bah, c'est son jeu, son placement entre les lignes, sa manière de lire le jeu, etc. Donc le cantonner à une position de défenseur central, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Et je ne pense même pas qu'il sera bon dans ça. Je ne pense même pas qu'il sera bon dans ça. Après, c'est mon avis, hein, mais voilà.
Non, mais de toute façon, Danilo, il est trop lent, il est très bon en axial, mais
Ouais.
sur les côtés, être capable de gérer et un côté et son dos, avec sa vitesse et sa capacité à se retourner qui est très faible, c'est juste dead. C'est un joueur qui a des qualités, il ne faut pas le jeter et tout. Il peut avoir une vraie utilité dans l'effectif, comme Tonton le disait, notamment pour le poste de libéro, qui est un poste où. Qui est un peu différent que les deux autres centraux dans une défense à trois, où c'est plus un poste de compensation et d'anticipation par rapport au mouvement des autres, mais tu n'as pas besoin de te rééquilibrer par rapport à l'équipe, c'est-à-dire que tu restes toujours libéraux, mais sur une aile, il n'aura pas les capacités techniques pour le faire, quoi, tout simplement.
Et juste Danilo n'est pas défenseur au Portugal, il a juste compensé
Les
la
absences.
blessure de Ruben Dias.
Mais si Ruben
Non,
Dias
je parle du commentaire.
ouais, mais si Ruben
C'est ça.
Dias, si Ruben Dias revient, Danilo, il va sur le banc
Il
parce qu'il
redevient milieu.
passe au milieu.
Voilà.
Il prend. Non,
Cela
non.
implique de faire jouer les indésirables, mais Danilo n'a jamais été mis comme indésirable.
Exactement. Mais justement, j'allais te dire, c'est la prochaine thématique de ce live. Donc avant de l'aborder, ben, je vois que ça fait 28 minutes qu'on est en live. On est un peu plus de 287. Je me dis que si on pouvait avoir la moitié en pouce bleu, ce serait déjà une bonne idée. Et ce serait super sympa pour nous aider à développer la chaîne.
Non, non,
Vas-y,
non,
dis-nous tout, Barry.
c'est pas je me dis, c'est je veux, on est
Retour de la
283, je veux
dictature de Barry.
141 likes, je veux 142 likes, je veux 142 likes sur
C'est
cette
faisable.
vidéo-là. Sinon, je viens chez vous et on ramène Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain.
Mais
Like, non, enfin,
justement,
plus sérieusement,
Véronique Rabiot pour jouer dans les cages centrales.
Tu parlais des indésirables juste avant, c'était la prochaine thématique pour ce groupe de savoir qui allait jouer et ne pas jouer pour dimanche contre Nantes. Au niveau des indésirables, justement, on a remarqué qu'une liste a commencé à se dessiner, qu'il y a des entraînements qui sont mis en place le matin avec l'équipe qui est censée être le groupe pro et l'équipe 1. Et l'après-midi, il y a des entraînements avec certains joueurs comme Kurzawa, comme Herrera, comme Draxler. Et là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de loft qui commence à se dessiner concrètement? C'est un peu ce qu'on demandait. Et tu as Alain qui nous demande des legs pour quoi faire? Ben, pour nous aider à développer la chaîne, tout simplement, et pour être de plus en plus
En fait,
nombreux. Ah, ça pourrait
juste
être
pour t'expliquer,
intéressant, ça.
Alain Philippe, en fait, les likes, ils aident au référencement de la chaîne. Et donc, forcément, ça met en avant nos vidéos. Et donc, ça permet déjà à avoir plus de monde qui nous regarde et à développer un peu mieux la chaîne. Voilà. Ta question, c'était sur les indésirables, c'est ça, hein? Sur les deux entraînements. Tu veux répondre, Rias, ou je réponds en 2 minutes? Ok. Merci. Franchement, les indésirables, on a parlé, on a reparlé de ça sur cette chaîne-là. Est-ce que c'est bien de mettre deux entraînements? Oui, complètement. Qu'ils aillent s'entraîner avec les jeunes. Prenez votre argent, il n'y a pas de problème. Mettez-vous là-bas. Mais après, venez pas pleurer. Parce que là, j'entends la rumeur de l'équipe. Ils estiment qu'ils auront du temps de jeu. Ok, c'est très bien. Mais va t'entraîner avec les jeunes, comme avec Ben Arfa. Allez vous entraîner avec les jeunes, prenez votre argent, et puis vas-y, mais venez pas nous saouler. Parce que moi, je sais très bien comment ça va finir. Quand ils vont quitter le Paris Saint-Germain, ils vont cracher sur nous. Ils vont dire, oui, on nous a manqué de respect. Non, t'as pas manqué de respect, t'es mauvais, on veut plus de toi. Tu veux rester, bah tu joues pas, tout simplement. Je sais pas, hein, moi, c'est pareil dans toutes les entreprises. T'es mauvais, on te met dans un coin, c'est tout. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, l'entraîneur ne compte pas sur eux. Après, attention, parce qu'il y a quand même des indésirables qui sont quand même appréciés du vestiaire, notamment Herrera,
Notre ami le fêteur,
je
ouais.
crois, notamment Rafinha aussi, qui est apprécié de Neymar. Donc faites attention à ce que ce groupe d'indésirables ne pollue pas le groupe. Excusez-moi, j'ai vraiment les yeux qui grattent, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, faut faire attention à ce que ce groupe d'indésirables ne pollue pas le vestiaire. Et dernière chose, ils vont s'entraîner avec les jeunes. Il me semble qu'on veut mettre en place le groupe élite avec les jeunes. Ils vont pas commencer à nous paraiser le groupe élite, hein. Ils vont pas commencer à nous paraiser les AR Emery, les futures pépites, hein. Tu vois? Moi, c'est juste pour ça que j'ai peur. C'est plus pour comment ça va polluer l'environnement du club.
Et comme le rappelle très bien Anthony, le loft n'est plus effectif après le 1er septembre. Et ça, c'est une réalité.
Pas tout à fait. Justement, ça a été étudié. Ils ont étudié tous les textes de loi. Et en fait, à partir du 1er septembre, tu sais juste que tu dois leur fournir un entraîneur qualifié. C'est-à-dire un entraîneur qui est reconnu par la LFP pour pouvoir continuer, mais tu n'es pas forcément obligé de les mettre à s'entraîner avec. Enfin, c'est ce qu'ils expliquaient dans l'équipe ce matin. C'est tout ça, c'est complexe. Après, par rapport à Paris, jamais, c'est pas comme ça que ça se passe dans les entreprises. Et tout n'est pas idéal par rapport à un loft. Non, non, bah non, dans les entreprises, si tu mets quelqu'un au placard et que la personne est capable de le prouver, elle peut aller au prud'homme et gagner tout à fait son dossier contre toi et elle aura
Tu les mets
aucune.
pas au placard.
Ah,
Tu les
oui.
mets pas au placard.
Bah,
Ils
si.
s'entraînent, ils jouent, mais ils s'entraînent, ils jouent, mais ils ne joueront pas dans l'équipe première, c'est tout. T'es en droit de ne pas faire jouer un joueur qui est mauvais. Hein.
Regarde, Kurzawa, il a joué cette saison.
Est-ce que je peux
Ah
finir?
oui. Excuse-moi.
Ouais. Donc non, au niveau humain, c'est assez discutable. C'est assez discutable. Maintenant, en fait, il y a plein de points de vue à considérer. Il y a le point de vue du club, le point de vue du joueur, etc. Et t'en arrives à une situation où tu es obligé de fonctionner comme ça. Mais humainement, c'est pas topissime. Maintenant, bah, on est obligé de faire comme ça. Tu vas pas continuer une saison avec, notamment au milieu, je sais pas combien de milieux on a, mais pas loin d'une dizaine. À fonctionner comme ça, c'est pas sain pour le club, c'est sain pour personne. C'est juste qu'on se retrouve à l'heure actuelle dans cette situation-là à cause des errements passés sur les 10 dernières années, de je ne sais pas combien de panic buy sur panic buy qui t'a amené à avoir un effectif complètement qui est pas du tout hétérogène, qui est complètement fracturé dans tous les sens. Et tu le payes aujourd'hui et t'es obligé d'utiliser une méthode qui est un petit peu sale pour le faire. Et on fait. Et il y a un nouvel ajout dans le loft. Il y a un nouvel ajout dans le loft. Ah oui, sur Zaïre Emery, lui, il s'entraîne complètement avec les pros. Mais il y a un nouvel ajout dans le loft aujourd'hui, c'est Kerrer. Et ça met en lumière quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée de Mukiele,
Voilà.
il y a l'arrivée de Mukiele implique le départ de Kerrer dans le loft. Si jamais on recrute Renato Sanchez, tu auras très certainement Ganagay qui rejoindra le loft. Si tu recrutes Skriniar, etc., etc. Et en fait, le loft va commencer à se constituer au fur et à mesure des arrivées ou des non-arrivées et certaines présences dans le groupe ou dans le loft sont conditionnés au mouvement de mercato qu'on fera.
Alors, c'est marrant que tu
Et
parles de
juste,
Kerrer. Vas-y, Barry. Termine sur le
je
sujet.
voulais juste, je voulais juste répondre à un commentaire que j'ai vu. Que feriez-vous si votre employeur se comportait ça avec vous? Ils vont pas se faire fouetter quand ils vont au Paris Saint-Germain. Hein. Ils s'entraînent comme tous les joueurs, c'est juste qu'ils ne s'entraînent pas avec le groupe pro. Donc, comment vous comporterez-vous si vous. Bah, qu'est-ce que je te dise? En soi, le Paris Saint-Germain ne fait rien de mal. Hein. Il
Il
laisse les
maintient le
sponsors.
salaire, il maintient les
Non.
conditions de travail.
Il maintient les salaires, il maintient les conditions de travail, tu t'entraînes comme tout le monde. Non, c'est juste que tu ne joues pas avec le groupe pro. C'est comme si, regardez, je vais vous prendre juste l'exemple. Tu as un groupe de 23 joueurs en Ligue des Champions. Tu décides que Herrera, qui est un professionnel de ton club, ne fera pas partie de ce groupe-là. Est-ce que c'est faire quelque chose de mal? Non, c'est juste que tu ne comptes pas sur lui, que ce soit dans les titulaires, dans les réservistes, ni dans les remplaçants, tout simplement. C'est pas ça.
Très inexact ce
Bah
que tu
non.
dis, Harry. Bah,
Bah
laisse-moi
si,
finir.
si.
Ah,
Bah, j'avais pas fini, tu me dis laisse-moi finir,
ok,
déjà.
magnifique, mais tu vas répéter ce
Donc.
que tu as dit 3 fois. Juste le truc, c'est très inexact parce que les mecs qui ne s'entraînent pas avec le groupe pro, a priori, ils ne mangent pas avec le groupe pro, ils sont placardisés, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Maintenant, après, on peut discuter de tous les points de vue et tout, mais dire que c'est clean humainement, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Et en l'occurrence, dans le monde du travail, si jamais une personne, tu lui as donné une qualification de job et tout à coup, tu donnes une réalité de job qui n'est pas celle-là, encore une fois, il peut aller au prud'homme, il gagnera tous les jours. C'est plus complexe que ça. Et humainement, si, ça reste moyen. Ça reste
C'est pas
moyen. Il y a
la...
débat sur le sujet par rapport à ça, justement, parce que c'est moyen.
Tu
Je
t'indignais de
savais
la
même
même
pas que.
manière quand c'était fait à Lille par Campos? De quoi pas?
Je savais même. Par contre, je
Lille
savais
l'a
même
fait.
pas que.
Oui, bien sûr. Ah non, mais Campos est familier du fait. Hein. Campos est
Campos,
familier.
c'est pas son coup d'essai. Hein.
Ah oui,
Je
bien sûr.
savais même pas. Je savais même pas qu'ils n'avaient pas le droit de manger avec les joueurs. Moi, je pensais que c'était juste au niveau des entraînements. Donc après, oui, ça c'est
Non,
son
c'est
vrai
vraiment
revenu
c'est
au
mis à
placard.
l'écart. Il y a une volonté de mettre
Ah
à
ok.
l'écart le joueur pour lui faire comprendre.
Ça, je
C'est en
savais
fait,
pas.
si eux,
Moi, pour
Campos
moi,
l'avait
c'était
fait
juste
à
un
Lille
placement.
déjà avec les anciens, tu sais, notamment comme Palmieri qui avait fait quand même une bonne saison avec Lille, qui s'en était plaint, tu sais, celui qui venait de Bastia et le
Oh.
Corse qui avait joué à Lille. Et il en parlait, il disait justement, c'est il a été mis complètement à l'écart. C'était, il s'entraînait pas avec le groupe pro, ça mangeait pas avec le groupe pro. C'était quand ils étaient dans le centre d'entraînement, c'était pas de contact avec les pros. C'était pour leur faire comprendre clairement, trouvez-vous une porte de sortie de manière ferme, quoi. Après, si t'avais
Ah,
pas
ça, je
de...
savais pas.
Voilà, donc Campos, il est familier du truc, c'est pas la première fois qu'il fait. Après, ben, forcément, t'associes le concept de loft avec le concept PSG, bah, ça en fait bondir certains qui se saisissent de l'occasion pour dire, bah, regardez, le PSG, encore une fois, c'est pas top avec les employeurs et avec les footballeurs, mais c'est pas le premier club à le faire, c'est pas la première fois que Campos le fait, ça se fait ailleurs aussi. Il y a d'autres clubs qui utilisent des méthodes bien sympas aussi. On n'évoquera pas la manière de Laporta avec Frankie de Jong pour lui faire comprendre qu'il doit baisser son salaire en lui mettant la pression dans les médias. Ce n'est pas des plus propres non plus. Mais ça pose d'autres problèmes. Mais moi, je voulais revenir sur ce que disait justement Drias. Il avait très bien évoqué le cas Kerrer. Pour moi, je trouve qu'il est important à mettre en place parce que pour moi, il n'est pas lié seulement à l'arrivée de Mukiele. Il est lié aussi au fait que Séville a perdu Koundé et Diogo Carlos, la défense complète. Donc les mecs ont besoin de renfort. Donc si les mecs se mettent sur Kerrer et que tu recrutes Renato en prêt, après avoir recruté Mukiele en prêt, après avoir recruté Ekitike en prêt, est-ce que vendre Kerrer, là je pose la question les gars, est-ce que vendre Kerrer à Séville, ça permettrait pas enfin d'acheter Skriniar au prix que demande l'Inter depuis un mois?
Je pense pas. Je pense pas.
Je pense pas.
Je pense que après, je pense que Skriniar, on va finir par l'avoir à notre prix, tout simplement parce qu'on joue la montre. Et l'Inter se retrouve dans une situation qui est un petit peu complexe justement par rapport à ça. Je pense que le départ de Kerrer et potentiellement l'arrivée à Séville, et là-dessus, tu as très très bien expliqué la partie Séville du truc, mais est rendu permis justement. C'est-à-dire qu'on a. En gros, Mukiele arrive pour remplir le rôle que faisait Kerrer, qui était remplaçant, des fois latéral, des fois central gauche. Mukiele arrive pour ça, et donc on n'a plus besoin de Kerrer, et hop, il est placé, et maintenant on lui donne sa porte de sortie. Mais je pense pas que ça va nous donner les liquidités nécessaires pour faire Skriniar. Enfin, si.
Malgré tous les prêts, parce que regarde, les recrues, c'est des prêts, hein. On n'a fait aucun achat, à part
Complètement.
Vitinha
Sauf
et Nuno
Vitinha.
Mendes.
Ben, Nuno Mendes, c'était la saison passée, mais oui. Mais je pense que, donc, l'argent, effectivement, on en a besoin, mais je pense pas que ça va être pour pouvoir payer les 70 millions que demande l'Inter, voire même plus, parce qu'à un moment, ils étaient montés à 90, et je pense que ça partira à 60, voire à 65, ce qui est le prix qu'on veut mettre depuis le départ.
Alors l'Inter voulait pousser jusqu'à 70 de mémoire, donc
C'est
je
ça.
pense qu'il y a un peu, comme tu l'as dit, cette volonté de jouer la montre. Mais toi, Barry, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que un départ de Kerrer vers Séville ne pourrait pas, pourquoi pas, accélérer une arrivée de Skriniar au PSG?
Je pense que les deux dossiers sont indépendants. Moi, c'est mon avis de ce que je vois. Après, oui, forcément, est-ce que ça permettrait d'avoir le club d'avoir une marge financière plus haute? Oui. Mais je pense que le club veut se cantonner au prix qu'ils avaient fixé dès le départ. C'est mon avis. Sinon, Skriniar serait déjà venu, vu qu'on nous dit qu'on avait 80 millions, je crois, de budget,
Budget.
non? Ouais, on a mis combien? On a mis 50 millions, on a mis 50 millions
Non,
sur, comment il s'appelle?
je crois.
Sur Vitinha, non? Non, 30 millions
42
sur
sur
Vitinha, 30
Vitinha,
millions.
42 sur Vitinha et 40 sur Mendes
Voilà.
parce qu'on a levé l'option d'achat cette année. L'an dernier, c'était un prêt de Nuno Mendes. On a
Oui, mais
levé l'option cet été.
moi je te parle de cet été. Cet été, au-delà de Mendes, c'était 80 millions qu'on avait, non? Si je dis pas de bêtises.
On a déclaré, enfin, mais ça va savoir si c'est vrai. On avait déclaré 90 millions à la DNCG et on a eu la vente de Airola pour, je crois,
11
10,
millions.
11 et la vente de Boulka pour 5.
2 plus 3, Boulka.
En gros, on était à 105 millions et il y en a 82 pour le combo Nuno et Vitinha. Donc il en reste
Ouais.
une trentaine, pas 25
Non
plus.
mais moi je reste persuadé que Skriniar va venir. Donc après c'est juste des négociations entre les deux. Le club ne veut plus surpayer, l'Inter veut qu'il surpaye. Et puis voilà, enfin, je pense
Je
que c'est plutôt ça
connais.
se passe.
Salut à toi, Pini. Mais ouais, après, justement, pour revenir sur cette thématique de Kerr, moi, je pense, hein, ça reste que mon avis, que justement, le départ de Kerr vers Séville, ça va te permettre d'embaucher de l'argent comptablement. Parce que là, je le réexplique, je l'avais déjà expliqué dans un live, mais je le réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. Quand tu fais un achat, comptablement parlant, c'est réparti sur le nombre d'années de contrat et tu le divises. Sauf option spécifique, comme dans le cas de Vitinha, où tu as une option où on le paye en 3 ans. Mais le club qui vend, comptablement, c'est considéré comme encaissement total du transfert, même si ce n'est pas vrai dans les faits que tu le touches en plusieurs années. Donc, si par exemple, tu vends Kerrer, on va dire, je dis une bêtise, hein, total, hein, tu vends Kerrer 15 millions pour un contrat de 5 ans. Dans les faits, Séville, ils vont nous payer 3 millions par an sur 5 ans. Mais dans les faits comptables, nous, c'est comme si on avait encaissé les 15 millions tout de suite. Donc, du coup, ces 15 millions, tu peux les ajouter à cette somme que tu disais qui nous reste de la DNCG. Exactement, Pierre, c'est un amortissement. C'est un amortissement. Sauf que comptablement, du point de vue de l'acheteur et du vendeur, c'est pas la même sauce. C'est-à-dire que du point de vue du club vendeur, c'est considéré comme touché tout de suite, alors que du point de vue acheteur, c'est considéré comme éparpillé sur le nombre d'années de contrat ou selon l'arrangement du deal que tu as avec le club vendeur.
Après, c'est un peu plus complexe que ça, l'amortissement, mais oui,
Je l'ai fait en
grosso modo, c'est
simplifiant le
ça.
plus possible.
Ouais. Grosso modo, ça reste ça. Ouais, non, mais après, pour la question initiale, débarrasser de Kerrer, ce serait très bien. Si en plus, ça nous aide à avoir Skriniar, même si moi, je doute que les deux dossiers soient liés, c'est encore mieux. Tu te débarrasses de Kerrer, tu prends Skriniar, c'est très bien, même si Kerrer est un joueur que j'aime bien, malheureusement. Mais voilà, on parle quand même de Skriniar, l'un des tops à son poste,
C'est
rien à
pas
dire.
Kerrer que t'aimes bien, c'est sa sœur.
Il a une sœur
Non,
Kerrer?
mais Z, on ne permet pas. Non, il y a
Il a une sœur
Ridouane.
Kerrer?
Alors, Ridouane, je vulgarise Ridouane. Hein, j'ai précisé que je ne suis pas un expert en la matière. Hein, je vulgarise, même désolé si les termes ne sont pas exactement les bons. Hein, c'est actif si tu préfères. Il y a un jeune entrepreneur aussi qui nous parle de Paredes qui pourrait partir pour 25 millions à la Juve, qui a 20 à Séville, Gueye à 8 pour Everton. Ça te fait des recettes. Alors, il faudrait encore que tous les transferts dont tu parles se concrétisent. Mais oui. Si tu fais tous ces transferts, comptablement, tu peux enregistrer un truc assez intéressant, ouais.
Puis tu baisses
Donc,
ta part salariale aussi.
exactement, parce que il y a certains de ces joueurs qui ont des salaires un peu intéressants, parce que bon, Kerrer, c'est que 4 millions par an, Gueye, c'est 5 millions, c'est pas énorme non plus. Par contre, Paredes, t'es sur du 8 millions net par an, donc tu dégraisses un peu de masse salariale, tu peux enregistrer d'autres joueurs. En plus, il se trouve que ceux qu'on a enregistrés, ils prennent pas des salaires de patron. Donc non, tu peux faire des choses intéressantes en soi. Tu peux faire des choses intéressantes. Bah,
Ouais,
justement, pour conclure.
sachant qu'en plus dans ton club, tu as Neymar que tu as jusqu'en 2027. Bon, son salaire est certes dégressif, mais je crois que son salaire ne va pas en dessous des 20 millions. Donc tu l'as encore pour encore 5 ans. Il faut commencer à
Mbappé,
dégraisser dès
Messi.
maintenant. Hein. Non, mais excuse-moi de faire un aparté, hein, mais je crois que les gens n'ont pas bien compris la problématique Neymar. Moi, Neymar, c'est un joueur que je kiffe et je pense qu'actuellement, il peut encore donner des choses au Paris Saint-Germain. Malheureusement, vous le voyez, son niveau commence à décliner. Et comprenez bien une chose, ce niveau-là que vous affichez actuellement, il va décliner d'année en année avec un salaire monstre. Ce qui fait que Neymar, là, vous allez garder jusqu'en 2027. Lorsque Neymar aura 35 ans et qu'il n'arrivera plus à faire les efforts, il sera encore dans ton club. Ne l'oubliez pas, les gars. Donc, si le club veut se débarrasser à tout prix de Neymar, c'est qu'ils ont compris cette problématique-là aussi.
Il y a Scander qui demande, est-ce que Koundé n'aurait pas été mieux qu'un Skriniar? Alors, Moi, de mon point de vue, hein, vous pourrez répondre et penser ce que vous voulez derrière. Moi, je pense que non, parce que si on vise un Skriniar et pas un De Ligt ou un Koundé, c'est peut-être parce qu'on veut un défenseur qui est prêt tout de suite, qui arrive à maturité. C'est le cas de Skriniar. Skriniar, il a un âge où il est prêt tout de suite. Tu sais que tu n'auras pas besoin d'une année d'adaptation, même si Koundé est fort. Hein. Koundé est fort, il n'y a pas de problème. Mais je pense que Koundé, tu vas attendre un peu avant d'en tirer le maximum, avant qu'il atteigne sa meilleure version, alors que Skriniar est prêt tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté.
Moi, je pense
Ouais,
que
bien sûr.
y a, et puis y a un facteur qui est formidable avec Skriniar. C'est, enfin, il y en a deux. Il y a déjà l'entente avec Hakimi. On sait que c'est un duo qui marche très très bien, Skriniar-Hakimi. Ils l'ont fait pendant un an, donc pourquoi pas le refaire tout simplement. Et le deuxième argument pour Skriniar, c'est que c'est un patron. C'est un vrai patron en charnière. C'est autre chose que tu n'aurais pas du tout avec Koundé. Koundé, c'est un superbe joueur, mais ce n'est pas du tout un patron. Marquinhos a montré ses limites dans ce rôle-là. Avoir un vrai patron, ça permettrait de pas mal fluidifier justement l'animation de la charnière et du coup Skriniar tous les jours. Par contre, je voulais réagir sur le message où le mec parlait de fraude et Messi. C'est pas que Messi est une fraude, enfin Messi est jamais une fraude, mais par contre Messi a perdu sa vitesse et quand tu le vois chercher à s'empaler dans les défenses adverses la cinquième fois, il y a des fois où il est un petit peu fatigant aussi. Donc fraude non, mais fatigant ouais.
Après moi sur Messi, je suis quand même j'ai quand même des réserves. Enfin, je suis mesuré quand même, comme j'ai dit tout à l'heure. Il lui manquait ce point de fixation qu'il a eu durant des années dans la position de numéro 9. Par contre, oui, la saison de Messi n'est pas au point, tout simplement. Et ça, faut le reconnaître. Après, de là à parler de fraude, non. Mais dire que sa saison n'est pas au point, oui.
Bien sûr. Alors, pour conclure un peu ce live et la question fil rouge du début, on parlait du premier match de Galtier, le premier vrai test, quel compo, quel joueur. Bah, du coup, je vais vous demander chacun votre tour. Vous voyez quel 11 démarrait contre Nantes ce dimanche en Trophée des Champions? Allez-y, je vous laisse.
Bah,
Pour moi, le 11 dernier match.
Donna, Hakimi, Ramos, Marquis, Kimpembe, Nuno. Verratti, Vitinha et bah, Messi, Neymar et je pense que ça sera Cali.
T'en penses quoi,
Ouais,
toi,
moi,
Barry?
je pense que ce sera le 11 du dernier match. Hein. Ouais, c'est pratiquement le même 11 que qu'a dit Dria. C'est juste qu'on avait Zaïre Emery sur le terrain. Et on n'a pas encore testé la doublette Verratti-Vitinha. Moi, personnellement, je trouve qu'on aurait dû la tester pendant les matchs de prépa.
Bah, elle était
Il ne
testée,
l'a
je
pas
crois.
fait.
Tu mets un doute,
Je
mais
crois que. Non, il me semble qu'à chaque fois, ils ont fait une mi-temps chacun. Ou alors, je ne me rappelle plus.
en
Sans...
tout cas, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui pensent que Sarabia va être titulaire. Hein.
Je vais te dire tout de suite. Je te dis tout de suite.
De toute façon, Mbappé ne joue pas. Donc, non, Mbappé, il est suspendu. Mbappé
Sur
est suspendu.
le dernier match, ils sont ensemble, Marco et Vitinha.
Ouais, Mbappé sera suspendu.
En titulaire?
Ouais, en titulaire, ouais. Ouais. J'ai la compo devant les yeux là. Et justement, t'as
Bon,
Marco et Mingue.
dans ma tête,
Tu
c'était Zaïre Emery. Bon.
peux te donner la sensée, t'as Vitinha qui écarte beaucoup sur les ailes et qui est très satisfaisant pour ça.
Non, mais dans ma tête, c'était Verratti et Zaïre Emery. Ah non, je crois que Vitinha, à un moment, sort
Oui,
et Zaïre Emery rentre, non?
il rentre en deuxième mi-temps et c'est le match d'avant en fait. C'est le match d'avant. Tu
Ouais,
confonds avec le
je suis
ça,
fatigué, je suis fatigué.
du PSG contre Gamba Osaka. Et le match
Hein?
précédent, je vais te dire tout de suite lequel c'était. Je vais y arriver. Voilà. Non, bon, j'y vais pas y arriver, mais je ne se connais plus et à ce moment-là, il y avait la compo que tu as annoncée. Mais sur le dernier, c'était Marco Vitinha.
Ok.
Mais
Autant pour moi,
donc
autant
du
pour
coup,
moi.
vous deux, vous voyez cette compo en 3-5-2 avec Kalimundo.
3-4-1-2.
C'est ça.
J'aime bien parce que je vois quelqu'un dans le chat qui s'appelle les Argentins et il a absolument rien compris à ce qu'on a dit sur Messi, hein, vu la manière dont il réagit. Je pense, hein, parce qu'il a pensé que Z a critiqué Messi alors que pas du tout, au contraire.
Aussi,
Je
un
trouve
peu.
que ouais, tu l'as plutôt défendu, même, je te dirais. Mais il y a
Un match s'est passé.
En tout cas, dans le
Tu
chat,
vas
tu
rien
vois,
faire.
dans le chat,
Arrête.
tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que Sarabia sera titulaire. Mais je pense que Sarabia titulaire à la place de qui? De Neymar, de Messi ou de Kalimundo? Parce que moi, je veux bien que tu me dises Sarabia titulaire, mais si tu me dis pas la place de qui, je peux pas deviner. Parce que dans le chat, je pense que dans leur tête, tu vois, quand ils mettent les commentaires, c'est très clair. Malheureusement, moi, je suis pas dans leur tête, donc tu as vu, je peux pas développer plus que ça.
Les Argentins.
Juste,
Non, mais
les
rigolez,
gars,
les
je veux bien
Argentins.
qu'on soit. Non, je veux bien qu'on soit pas d'accord sur Messi. Juste là, je veux un commentaire. Moi, je ne critique pas Messi. C'est une. Là, les gars, ça, je veux pas ça dans les commentaires. Hein. Donc, ça, c'est, je veux pas d'insultes dans les commentaires, etc.
Non.
Soyez
Les
mesurés, ça
gens
reste quand même
sont.
des joueurs de votre club. Ça reste quand même des
Et
joueurs de votre club.
juste,
Je te laisse, vas-y.
ouais. Juste vite fait, critiquer Messi aujourd'hui ne revient pas à remettre en cause toute
Ah, ouais.
la carrière de Messi. Messi a une très grande carrière, il n'y a pas de doute. Mais dire que Messi a un peu moins de vitesse aujourd'hui et est un peu moins capable de faire la différence, notamment quand il se lance des dribbles en 1v3, c'est juste objectif, c'est juste un fait. Puis c'est tout. C'est pas une critique, c'est un constat.
Alors, il y a un autre
Juste.
commentaire que je vois. Tu parles de quel Fofana?
C'est quoi?
Je pense qu'il parle de Seco parce qu'il y en a des Fofana dans le foot, donc ça m'aide pas des masses. Mais vas-y, Barry, continue.
Juste pour dire, on est 431 dans le live, donc s'il vous plaît, les gars, likez, likez, likez. Normalement, 420, là, on est 422, donc ça veut dire au moins 200 likes. Logiquement, c'est moins de la moitié. Voilà. S'il vous plaît, les gars, ça nous aide au référencement, ça fait plaisir. Team Barry, merci, mon gars.
Non,
Du coup, oui,
je vois beaucoup
sur
de
faux.
Sarabia, Messi, Neymar, ouais.
C'est Drias qui a parlé de Fofana?
Non, c'est un commentaire.
C'est un
Ah,
commentaire qui en parlait.
ok. Juste pour Fofana, bon, pour me répéter, hein, Fofana, c'est un joueur que j'aime énormément, mais je le vois plus dans un milieu à 3 que dans un 3-5-2. Après, ça reste que mon avis, je peux me tromper, je peux faire fausse route, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à le voir dans une défense à 3. Dans un système où il y a une défense à 3, pardon.
Moi, je préfère un Vitinha qui écarte sur les ailes plutôt qu'un Seko Fofana qui porte la balle et qui l'amène quasi à l'orée de la surface pour écarter vraiment au dernier moment. Je préfère avoir un joueur qui est un peu plus tout-terrain, notamment dans ses choix de passes. Et je trouve que le répertoire de passes de Vitinha est beaucoup plus important que Seko Fofana, donc je suis pas sûr de l'utilité. Et par exemple, on parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs, ah si, on en a touché, mais Renato Sanchez, c'est peut-être quasi fait. Et dans le délire offensivement, je trouve que Renato Sanchez est plus fiable que Fofana, pas fiable physiquement, mais dans les répertoires plus intéressants que Fofana, même s'il est plus faible défensivement. Et en sortie de banc, à mon avis, il sera beaucoup plus intéressant qu'un Fofana.
Juste, moi, je vais vous laisser. J'ai des choses à faire. Donc,
C'est
merci à tous
gentil.
de nous avoir. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Excusez-moi, ouais, j'ai bugué. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.
La prochaine Barry. Bah ouais, justement, pour conclure sur cela, je pense aussi qu'on se dirigera sur un 3-5-2 avec les mêmes joueurs. Après, je me dis qu'il y aura peut-être justement des tests avec des entrées en cours de match. Justement, si Hakimi n'est pas en forme, peut-être une entrée de Mukiele en deuxième mi-temps, peut-être un Ekitike qui rentre en cours de match à la place d'un Kalimundo. Pareil, si Kalimundo n'est pas très en forme, parce que je pense que sortir Messi et Neymar, ça va être un peu compliqué pour le premier match officiel. Je pense que les deux vont jouer. Donc après, justement, la question que je me pose, je sais pas ce que t'en penses justement, Z. Est-ce que pour toi, c'est Neymar ou Messi qui va jouer le rôle de 10?
Bah, ils échangent en permanence. Ce que j'ai constaté, j'ai pu récupérer vite fait les heatmaps de début de saison des deux joueurs. Ce que tu constates, c'est que Messi est un peu plus, mais c'est vraiment d'un poil de fesse. Enfin, c'est vraiment, ça joue à rien. Un peu plus tout terrain que Lionel Messi. Après, sur la composition de départ, quand tu les vois alignés au départ, au coup d'envoi, c'est plus Neymar qui est devant et Messi qui est derrière, mais dans les faits, les deux interchangent en permanence et t'es incapable de dire lequel des deux est le 9,5 et lequel des deux est le 10.
J'ai vu un autre commentaire assez intéressant de la Sana qui nous dit qu'il faut aller chercher Bernardo à City et pour City veut le vendre pour prendre Paqueta. Non, c'est City, s'ils vendent Bernardo, vont chercher Paqueta. Ils ne veulent pas vendre Bernardo. Et malheureusement, pour te répondre encore la Sana, je te pose la question et je pense que tu vas vite y répondre de toi-même. Il y a eu combien de transferts entre Paris et Manchester City depuis que les propriétaires sont Emirati et Qatari? Zéro.
Mais après, si on peut prendre Bernardo Silva, on prend, hein.
Bien sûr, il faut être complètement demeuré pour ne pas vouloir de Bernardo Silva au milieu de terrain aujourd'hui, quand tu vois la saison qu'il vient de faire notamment et son adaptation à tout type de poste offensif aujourd'hui. Non, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'ai bien sûr que j'en veux, mais je doute plus sur la faisabilité du transfert que sur mes réelles motivations. Non, c'est vrai que je pense que ouais. Je pense aussi, pour répondre à ce que dit Alex et à ton commentaire, que oui, je pense que Neymar sera ce numéro 10 parce que de toute manière. L'an dernier, enfin, il courait beaucoup, tu vois, notamment dans les matchs de Ligue des Champions, il dépassait les 10 km par match. Je pense que Neymar a besoin de toucher un maximum de ballons parce que plus il touche de ballons, moins il va en gaspiller parce qu'il aura l'assurance d'en toucher beaucoup. Donc il lâchera beaucoup plus vite. Que tu sais, dans ce genre de match où il touche pas beaucoup de ballons, il va se mettre une pression de lui-même où il se dit que chaque ballon qu'il doit toucher doit être décisif et du coup, il aura beaucoup plus tendance à s'emporter et à faire un peu n'importe quoi. Alors que je trouve que si tu le mets dans ce rôle de 10, où il va toucher un maximum de ballons, surtout avec Vitinha qui bouge beaucoup, je pense que le fait qu'il saura de lui-même qu'il aura beaucoup de solutions et qu'il aura un max de ballons au cours du match, Ben, on aura peut-être moyen de voir la meilleure version de Neymar, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Et c'est complètement, et d'ailleurs sur le dernier match, ça s'est vraiment vérifié où pendant 30 minutes, on avait un Neymar qui était proactif dans le jeu, qui distribuait bien, qui faisait circuler le ballon et qui était très intéressant avant de retomber dans ses travers. Alors, c'est pas parce qu'il est monté plus haut, je pense que c'est plus parce que ça lui demande trop de concentration de purifier son jeu, puis bon, faut lui laisser un petit peu de temps. Mais je pense que Neymar, j'ai quelques espoirs pour Neymar, j'ai l'impression que Neymar est capable de se réinventer. Et peut-être qu'il pourrait être ce joueur utile. C'est
Alors,
mais ça pourrait
il y a
encore.
Laurent qui pose une question très intéressante, qui dit, et Ekitike, est-ce qu'il ne peut pas jouer à la place de Kylian contre Nantes? Ce que j'en pense. Ekitike, tu sais, il a cette faculté à plus avoir un rôle de faux neuf, à venir chercher les ballons, alors que Kalimundo va plus se projeter dans la profondeur. Donc je pense que pour ce registre de match, si tu as Messi et Neymar en même temps, il faut peut-être mieux mettre un Kalimundo qui prendra plus la profondeur qu'un Ekitike qui va lui aussi dézoner. Tu vas te retrouver avec trois mecs qui vont faire que dézoner. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Pour moi, tu confonds un petit peu le rôle d'Ekitike avec le rôle qu'il avait à Reims, où en fait, comme
Oui.
il
Ah non,
était
mais moi je te parle par rapport à ce que j'ai vu à Reims, tu vois.
mais justement, tu sais, comme il était seul sur le front de l'attaque, il était obligé de dézoner. Après, c'est un joueur qui est intéressant dans ses appels. Maintenant, moi, la problématique, en fait, pour le mettre dès samedi, c'est qu'il a, pour l'instant, il a aucune minute, en fait, avec les pros. Il est arrivé à l'entraînement il y a quoi? Il y a 2 jours. Enfin, non, il y a 10 jours, mais
Je vois plus rentrer en cours de jeu, tu vois, qu'être titulaire et Ekitike en ce qui me concerne.
Exactement. C'est-à-dire que pour l'instant, il est encore en train de découvrir ses partenaires. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps avant de l'envisager en titularisation. Je pense.
D'accord.
Après, je pense qu'il est capable de faire des appels. Hein. C'est juste,
Bien
c'est
sûr.
pas trop. Faut faire gaffe quand on lit les performances passées de Ekitike à pondérer avec la manière avec laquelle Reims jouait et les contraintes que Reims lui apportait.
Mais justement, je pense même qu'il sera plus dangereux en rentrant en cours de jeu à un moment où les Nantais seront plus fatigués, où même les défenseurs seront moins lucides, où son intelligence de jeu sera bah, encore plus utile, parce que du coup, il sera directement où aller pour que ça fasse mal, avec un Kalimundo qui va fatiguer les défenseurs avec ses appels tout au long du match. Donc même dans l'intérêt d'Ekitike, je pense qu'il est mieux pour lui dans ce match-là, surtout qu'il n'y a pas Mbappé, donc il ne va pas rentrer en cours de jeu. Je pense qu'il serait plus utile pour Ekitike de rentrer en cours de match. Et ça lui permettra même pour lui d'être plus en confiance et de mieux démarrer. Parce que s'il fait un bon démarrage avec le PSG, bah peut-être que les prochaines fois qu'il rentrera, bah il aura un impact. Alors que si tu le fais rentrer dans de mauvaises conditions, où tu sais, il va se taper un Nicolas Palois qui va lui rentrer dedans direct et venir gratter les chevilles, comme j'aime bien citer ce joueur comme référence de la défense de Ligue 1, parce que bah, on va l'affronter dimanche, bah, je pense que Kalimuendo sera plus utile en titulaire et Ekitike en cours de jeu plutôt que si tu fais l'inverse. Mais ça reste que mon avis.
Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a notamment un truc, c'est que Ekitike, c'est un joueur qui surperforme au niveau des tirs. Il est très au-dessus de ses expected goals parce que il est létal. Il vise très 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 bien. Et juste une petite remarque. Bah oui, Tonton et Palois, justement, faut pas qu'il fasse un demi-tour avec sa caméra parce que sinon vous vous rendrez compte que sa chambre est dédiée à c'est le mausolée Palois en Ardèche, n'est-ce pas? Et il y a le mausolée Palois, quoi.
Non, disons que c'est ma référence du joueur dur et rude de Ligue 1. Il y a Yacines qui pose une question qui dit, est-ce qu'avec l'arrivée de Mukiele, Hakimi est menacé? Menacé non, par contre je dirais qu'il va être obligé de se bouger, parce que maintenant il a un vrai concurrent, chose qu'il n'avait pas l'an dernier. L'an dernier il aurait pu être nul toute l'année, personne ne lui aurait pris sa place, alors que là s'il fait un mauvais match, il y a Mukiele qui va lui dire coucou, moi je jouais ce poste sur la Leipzig, je peux prendre ta place.
Mais c'est un vrai débat, c'est un vrai débat, parce que Hakimi, il y a une vraie question. C'est par exemple, et notamment si on passe à 4, je pense que Hakimi est mort. Si on passe à 4, Hakimi est mort parce que
Mort non, mais Mukiele sera plus à l'aise.
Il lui prendra sa place tous les jours, mais il y a même pas photo. En fait, il faut qu'on résolve les problèmes sur tous les matchs de préparation. Après, c'est des matchs de préparation, donc faut pondérer. Mais qu'est-ce que s'est passé par le couloir Ramos Hakimi? Et il y a d'énormes problèmes à ce niveau-là. Et du coup, Hakimi, ouais, comme tu dis, il va falloir qu'il se bouge et qu'il tarde pas. Hein.
Alors, il y a de pince qui nous.
Oups
Il y a
là.
de. Ouais, j'ai eu un petit bug. Il y a De Pins qui nous dit que l'équipe aurait pu être bonne, enfin Hakimi aurait pu être bon si l'équipe l'avait servi. De Pins, je t'invite à remonter la chaîne. Franchement, en novembre, on parlait déjà du fait que Hakimi se faisait boycotter par Di Maria et Messi. On posait la question en tout cas. Donc non. Alors on n'a jamais dit qu'Hakimi était mort. Par contre, on a le droit de dire qu'il n'a pas fait la même saison qu'à Dortmund et à l'Inter. On ne dit pas que c'est que de sa faute. Il y a des circonstances. Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. On ne dit pas que c'est que de la faute d'Hakimi, mais on a le droit de dire que Hakimi n'a pas fait. Une saison à Hakimi Prime cette saison, et je pense que justement, c'est être honnête avec le joueur que de le dire plutôt que de lui mettre une pression en disant, regardez, il a encore fait une saison incroyable. je trouverais ça un peu malhonnête parce que tu lui mets une mauvaise pression et l'an prochain, s'il fait des mauvais débuts, bah, tu ne pourras pas dire bah, il a besoin, je ne sais pas, d'être mis dans de meilleures dispositions ou pas. Bah, du coup, la chute sera plus rude. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
Je suis complètement d'accord et pour répondre à ça, j'aurais bon espoir sur une dimension, c'est qu'enfin avec Vitinha, on a un joueur qui est capable d'écarter sur les côtés et ça, Hakimi va pouvoir en profiter.
Et si on recrute un Skriniar en plus, j'ai envie de te dire, hey, si tu recrutes un Skriniar et que tu le mets axe droit et que tu as Hakimi piston droit, Hakimi, il va vraiment avoir toutes les clés pour s'épanouir et se régaler comme il faut, vraiment. Donc, bah, en tout cas, je vois qu'on a dépassé l'heure de live. Je voulais vous remercier. Bah, justement, je vois qu'on est 403 quand même à avoir été en live. Je vois que bon, l'objectif des 158 pouces a été atteint quand même, hein. On a presque fait la moitié en live. Donc, merci à tous d'avoir été là avec nous. Ah, il y a une dernière question. J'ai quand même abordé la dernière question. Avez-vous eu écho de la rumeur Ben Sebaini? Oui.
Ah bon.
Moi, oui, en tout cas. Est-elle intéressante pour remplacer Nuno Mendes à la place de Bernat? Moi, ça m'intéresse. Mais je te propose qu'on creuse le sujet dans une vidéo dédiée un peu plus tard, justement. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Z d'avoir été là avec nous tout à l'heure. Merci à Barry, même s'il a pu dû nous quitter un petit peu plus tôt, d'avoir été là avec nous pendant tout ce live. Merci à tous d'avoir là. Merci aux 400 personnes qui ont été là également avec nous dans ce live. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain pour un live spécial avec Nick. On se
Oups.
retrouve demain. Oh là, il a bugué encore mon téléphone. On se retrouve demain pour un live avec Nix à midi et on se retrouve dimanche tout de suite après le match pour faire le débrief de ce trophée des champions PSG Nantes. Merci à tous d'avoir été avec nous et ici c'est Paris.
Ciao tout le monde, ici c'est Paris.